Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes au Sahel. Une succession d'erreurs est à l'origine de la mort de soldats américains lors d'une embuscade au Niger en octobre 2017. C'est ce qu'a révélé l'enquête du Pentagone, dont les grandes lignes ont été présentées dans un rapport rendu public hier. Le document estime qu'un manque de préparation et une supervision insuffisante ont entraîné la mort de 4 soldats américains et de 4 soldats nigériens le 4 octobre 2017 près de Tongo Tongo au Niger. Le point avec Jean-Roger Bion.
L'enquête du major général Roger Cloutier d'Africom a pris plus de 6 mois. Ses limiers ont été sur les lieux de l'attaque, visité 6 pays, interrogé 143 témoins, dont 37 survivants, et ont consigné un rapport de 6000 pages resté confidentiel, mais dont 8 pages de résumé ont été rendues publiques. D'après le Pentagone, les soldats américains sont arrivés à l'automne au Niger pour former l'armée nigérienne et lui fournir une assistance dans la lutte antiterroriste. Au moment du déploiement, seule la moitié de l'unité avait eu un entraînement collectif. La mission d'octobre était de trouver, surveiller et, si possible, capturer un responsable du groupe djihadiste autoproclamé État islamique dans le Grand Sahara, dirigé par Adnan Abou Walid Sarawi. Mais selon l'enquête, le chef de la patrouille a défini de manière inexacte la nature de cette mission, disant qu'ils allaient parler à des leaders locaux. De plus, la description de la mission était un copier-coller, ce qui a montré un manque d'attention aux détails. Par ailleurs, les militaires ne portaient pas de gilet pare-balles et ont dû stopper les véhicules pour les mettre. Le feu ennemi s'est alors rapidement intensifié alors que les assaillants en grand nombre sortaient d'une zone boisée. L'intervention d'avions de chasse de l'armée française qui ont survolé la zone à basse altitude dans une démonstration de force a forcé les assaillants à battre en retraite.
La Côte d'Ivoire compte porter à 600 soldats les effectifs de son contingent militaire au sein de la MINUSMA, la force de l'ONU au Mali. C'est ce qu'a déclaré le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amontano, jeudi à l'AFP. Quelques 150 soldats ivoiriens sont déjà déployés depuis un an en tant que casque bleu à Tombouctou, dans le nord-est du Mali. Nous avons saisi les Nations Unies pour que la Côte d'Ivoire puisse accroître sa contribution à la MINUSMA, a déclaré le président ivoirien Alassane Ouattara lors d'un point de presse avec son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta, qu'il reçoit en visite officielle pour 2 jours à Abidjan. Il y a 2 semaines, M. Amontano avait annoncé à l'ONU l'envoi prochain de 450 casques bleus ivoiriens en Centrafrique. Guinée, l'opposition guinéenne suspend sa participation au dialogue avec le pouvoir qui refuse, selon elle, de trouver une solution au contentieux des élections locales de février. Elle a annoncé jeudi la prochaine reprise des manifestations anti-gouvernementales avec une journée ville morte prévue lundi à Conakry. Les précisions avec Irénée Herman Ungo.
Selon Selonda Aleng Diallo, leader de l'UFDG, il n'y a aucune volonté de la part des adversaires d'en face pour trouver un consensus au contentieux électoral. En plus de la suspension du dialogue avec le pouvoir, l'opposition entend reprendre ses manifestations par une journée ville morte à Conakry dès lundi prochain. Le pouvoir refuse toute modification des résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, alors que les chiffres publiés ne reflètent nullement, selon l'opposition, la vérité des urnes. Nous avons demandé que les corrections soient apportées et que le choix des citoyens dans les bureaux de vote prévalent, a déclaré Selonda Aleng Diallo. Le leader de l'opposition affirme détenir les procès-verbaux dûment signés par les personnes habilitées, mais ces documents ont été selon lui éliminés ou falsifiés lors de la centralisation des bulletins de vote. Il a aussi dénoncé la détention de plus de 107 de ses partisans arrêtés en rapport avec les élections locales du 4 février.
Afrique centrale maintenant, Congo-Brazzaville. Dette publique, corruption, conflit civil. Les évêques du Congo-Brazzaville ont dressé un bilan sévère des maux qui frappent leur pays sans ménager le pouvoir, auquel ils demandent un dialogue politique et un audit de la dette, ni ses partenaires extérieurs. En conclusion de leur lettre, les évêques proposent au régime du président Denis Sassou Nguesso d'ouvrir un dialogue politique le plus large possible. Sans faire allusion à l'actuel procès du général Jean-Marie Michel Mokoko, ex-chef d'état-major et candidat à l'élection présidentielle de 2016, les dignitaires religieux congolais soulignent le besoin d'une justice équitable et indépendante et demandent de libérer toutes les personnes en prison à la suite des contentieux politiques. En République centrafricaine, plusieurs ONG tirent la sonnette d'alarme sur la montée de l'insécurité. Plus de détails avec Marie Benson.
Selon le comité de coordination des ONG internationales en Centrafrique, la situation humanitaire à Bangui se détériore rapidement depuis début avril 2018. Le 1er mai dernier, l'arrestation d'un chef de milice dans le PK5 avait engendré des violences qui ont fait au moins 24 morts et 170 blessés. Dimanche, deux personnes ont été tuées et 10 blessés dans des tirs. Le comité de coordination des ONG déplore un manque d'accès de l'aide humanitaire dans ce quartier, majoritairement musulman, et les alentours. Des barrages de miliciens et des postes de contrôle se multiplient ces 10 derniers jours et limitent l'accès des véhicules humanitaires. Les agents humanitaires se voient refuser l'accès à de nombreuses femmes, hommes et enfants qui ont besoin des services sanitaires de base et ils se sentent ciblés par des actes de violence.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
RDC, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, juge élevé le risque de propagation de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et se prépare au pire des scénarios. Nous sommes très préoccupés et nous nous préparons à tous les scénarios, a déclaré ce vendredi le directeur de programme de gestion des situations d'urgence de l'OMS, Peter Salama, lors d'un point de presse à Genève. Il a précisé que l'agence spécialisée des Nations Unies avait comptabilisé 32 cas, dont 2 cas confirmés, 18 probables et 12 suspects, et 18 décès entre le 4 avril et le 9 mai dans la région de Bikoro, située au nord-est de la capitale Kinshasa, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. 3 de ces 32 cas sont des membres du personnel soignant, a indiqué Peter Salama, ce qui préoccupe fortement l'OMS, car de tels cas peuvent avoir un rôle d'amplificateur de l'épidémie, dit-il. M. Salama a également annoncé que l'ONU espérait mettre en place un pont aérien dès ce week-end avec des hélicoptères pour acheminer le matériel nécessaire dans cette région pauvre en infrastructure. L'OMS attend par ailleurs le feu vert des autorités de la RDC pour distribuer un vaccin expérimental anti-Ebola. Eddy Sango a interviewé le ministre congolais de la Santé, le docteur Oli Ilunga, et il lui a demandé comment des membres du personnel soignant continuent d'être infectés par le virus de l'Ebola.
Ils sont en première ligne. Lorsqu'un malade vient vers eux avec des symptômes de fièvre, mais il peut penser que c'est la malaria, mais si ça s'avère que c'est une fièvre hémorragique, il est à risque. Donc ça n'a rien à voir avec... Il faut considérer que c'est une maladie virale, que dans le monde entier, on peut mourir d'une maladie virale comme l'hépatite, qu'on peut mourir d'une maladie virale comme la grippe. Et Ebola aussi, elle est beaucoup plus agressive.
Quelles sont les dispositions qui sont prises pour que ça ne se propage pas rapidement et pour contenir l'épidémie?
Informer d'abord, un, les professionnels de la santé de prendre les différentes mesures nécessaires. Deux, informer également la population pour couper la chaîne. Je crois que la principale chaîne pour couper Ebola, c'est isoler les malades, l'hygiène de main. Et une autre dimension importante, c'est lorsqu'il y a un décès suspect, il faut que l'enterrement se fasse de manière sécurisée.
Le docteur Oli Ilunga, ministre de la Santé de la RDC à Kinshasa. Dossier Corée du Nord maintenant. Le 12 juin à Singapour, soit dans un mois, le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un vont se rencontrer lors d'un sommet historique pour discuter d'un enjeu crucial, la dénucléarisation de la Corée du Nord. Jacques Aristide.
Après avoir entretenu le suspense, le locataire de la Maison Blanche a annoncé la date et le lieu de ce tête-à-tête quelques heures après avoir accueilli hier 3 prisonniers américains libérés par Pyongyang. Nous allons tous deux essayer d'en faire un moment très important pour la paix dans le monde, écrit le président Trump sur Twitter. Il a remercié Kim Jong-un, qui dit-il a vraiment été excellent avec ces 3 Américains. Son secrétaire d'État Mike Pompeo, qui revient de Pyongyang pour préparer le sommet, n'a pas exclu qu'il dure plus d'un jour. Les diplomates américains et nord-coréens s'affairent pour définir l'ordre du jour de la rencontre. Le président américain espère un succès diplomatique après s'être attiré les critiques après l'annonce de son retrait de l'accord sur le nucléaire iranien. Le dirigeant nord-coréen a qualifié le sommet de chance historique pour construire un bel avenir et s'est dit prêt à négocier la dénucléarisation de son pays. Kim Jong-un s'est rendu 2 fois en Chine en 6 semaines pour parler au président Xi Jinping.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.